RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver pour de la discussion et du débat. Ça, c'est tous les jours en direct sur RMC. RMC Story, c'est donc leur DGG, des grandes gueules, vous l'avez compris. On est dans la 21e saison. Bonjour Olivier.
Déjà, bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui à tes côtés, maître Sandrine Pégan, avocate. Bonjour maître.
Bonjour, est-ce que je peux vous faire une petite confidence?
Mais je vous en prie.
Vous m'avez manqué. C'est bizarre, hein, j'étais là la semaine dernière. Alors profitez-en parce que je fais rarement des compliments comme ça. Mais je sais pas, il y a l'impression qu'il y a une espèce de... d'esprit de famille, et voilà, ça, donc les auditeurs m'avaient manqué.
Ça fait toujours comme ça avec nous.
Ouais. Bon, vous avez vu hein, comment j'essaye de vous flatter pour rester.
Mais on prend les compliments, on les prend toujours. Bonjour Jean-Loup Bonamy.
Bonjour à tous.
Est-ce qu'on t'a manqué?
Alain m'a plus manqué que toi.
C'est bien.
Ah, et est-ce que tu es heureux de me rencontrer?
Je suis très heureux.
Vous
connaissez pas maître connaissance, de faire ta connaissance, non?
Mais vous vois moi, je préfère.
Ok.
Alors. Maître, c'est ça.
Mais disons que l'européisme béat d'Olivier Truchot ne m'avait pas trop manqué pendant cette courte semaine.
Et alors, on a une constante, c'est les retards réguliers du camarade Didier Giraud qui ne sont pas de son fait.
Alors cette fois-ci, c'est pas à cause de la SNCF. Non. Je crois que c'est notre faute.
Ah bon?
Oui, parce que entre le train et ici, il doit prendre un autre transport et visiblement il y a eu des ratés dans ce transport. Donc il découvre le métro, sauf qu'il l'a découvert un peu en retard. On me dit qu'il est à Boussicaut. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront la référence.
Et tu sais que c'est le fondateur du Bon Marché, Boussicaut.
Oui, exactement.
Et non pas Bourricaut.
C'est à deux stations.
Aujourd'hui, je suis une forme.
Ouais, t'as la pêche.
Ouais, je vais pédé après. Donc,
Didier, le temps qu'il marche, il sera là, à mon avis, vers 9h30.
Oui, alors, Anaïs Sainz, que vous retrouverez tout à l'heure pour l'ensemble.
Qui arrive tranquille. Ça vient d'arriver, Anaïs.
Elle nous distribue les menus, c'est-à-dire le conducteur de l'émission.
Alors, oula.
Voilà, vous avez tout ce qu'il faut.
C'est n'importe quoi cette émission.
Allez, on y va, voilà. C'est parti. Vous savez quoi, je vous propose de commencer maintenant en parlant de ces refus d'obtempérer qui reviennent régulièrement dans l'actualité. Mais enfin, en l'espace de 48 heures, on a quand même 9 policiers qui ont été blessés.
Une situation d'échec. Hein. Effectivement, les refus d'obtempérer ont augmenté. On est à 28 200, c'est plus 11% par rapport à l'année dernière. C'est pas une situation d'échec, c'est un constat qu'il y a de moins en moins de respect de l'autorité dans notre pays et qu'il faut la réaffirmer. Donc la réponse qu'on apporte, c'est d'abord la fermeté. Il y aura toujours des poursuites quand il y a des refus d'obtempérer. Il y a une instruction très ferme, très claire que j'assume. Les parquets répondent très fermement. On l'a vu hier avec cette poursuite pour tentative d'homicide volontaire.
9 policiers blessés en 24 heures. Alors je disais à partir d'aujourd'hui, effectivement, ça faisait 48 heures. Mais ce qui est terrible, c'est de voir la similitude des événements. Et notamment cette scène que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux de cette policière qui a été agrippée et tenue sur le côté de la voiture. Elle a été traînée sur 100 mètres.
Oui, sur 100 mètres, une centaine de mètres du côté de Beson dans le Val d'Oise. En fait, la policière, c'est le chauffeur VTC, donc qui n'a pas voulu s'arrêter pour le contrôle, qui lui a agrippé le bras et qui a redémarré. Et donc la policière s'est retrouvée accrochée à la voiture pendant une centaine de mètres. Finalement, le suspect a été arrêté et placé en garde à vue. C'est un chauffeur VTC étranger qui, à mon avis, a des choses à se reprocher. On verra lesquelles. Il y a eu aussi, du côté de Quincy-Voisin, en Seine-et-Marne, un véhicule de là-bas qui a été percuté par une autre voiture. Et pareil aussi, du côté du périph nord de Nantes, où là, c'est carrément un véhicule qui a foncé délibérément sur un véhicule de police. Il y a eu 3 policiers blessés. Donc là, je suis à côté de Maître Pégan. On n'est plus dans un refus d'obtempérer, on est quasiment dans une tentative d'homicide. On verra comment les faits sont qualifiés. Monsieur Nunes, qu'on vient d'écouter, il est formidable. Alors déjà, il nous a appris qu'il y avait eu 2 autres refus d'obtempérer cette nuit, dont une course-poursuite sur plus de 90 km. Et quand on l'interroge sur l'augmentation sur l'année 2025, plus 11%, il dit non, ce n'est pas un constat d'échec, c'est un constat. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échec, mais c'est un constat que l'autorité n'est plus... Donc en fait, on a un ministre de l'Intérieur qui commente, qui observe, mais qui visiblement n'a pas trouvé la solution pour que ces refus d'obtempérer, il y en a quasiment 30 000 chaque année, baissent et que les policiers soient moins en danger.
Alors est-ce que il faut changer de doctrine pour les policiers, plus dans la réplique, dans l'intervention, dans le droit de poursuivre? voire même dans l'état de présomption de légitime défense et dans le droit de faire usage de leur arme, ce que n'a pas fait les policiers à Beson d'ailleurs, hein, parce que comme leurs collègues étaient accrochés, agrippés sur le côté de la voiture, ils n'ont pas voulu faire usage de leur arme au risque de pouvoir blesser leurs collègues. 32-16 pour en parler avec les juges. Jean-Loup Bonamy, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je ne suis pas surpris.
On connaît ta... on sait que tu es plutôt sur la méthode salvadorienne et la méthode Bukele.
Oui, sans le soleil, parce qu'il pleut aujourd'hui. Donc, nous n'aurons pas le soleil du Salvador. Mais simplement, moi, je ne suis pas surpris. Et je constate toujours les éternelles inconséquences des politiques. C'est-à-dire que tu ne peux pas, il y a 2 ans, faire 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour le jeune Naël, qui était lui-même l'auteur d'un refus d'obtempérer caractérisé, et en même temps t'étonner qu'il y ait à peu près 3 refus d'obtempérer par heure, c'est-à-dire 1 toutes les 20 minutes sur le territoire national, et qui maintenant tourne à la tentative d'homicide sur les policiers. Et voilà, moi je déplore une inconséquence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Quand il y a des refus d'obtempérer, ben on dit qu'il faut être ferme. Quand on est ferme et qu'il y a un problème, tout de suite on recule. Et voilà, c'est simplement symptomatique de la crise de l'autorité en France. Je ne suis pas vraiment surpris.
Tu es plutôt pour la méthode forte ?
Ah bah, je suis complètement pour la méthode forte, mais au-delà de rentrer dans des histoires à la Clint Eastwood, type l'inspecteur Harry, simplement si... là, l'auteur de cette tentative de meurtre, il était jugé. Immédiatement
aux assises.
Voilà. Et mais tu vois, avec des par exemple des procédures spéciales. Rapide. Voilà, des procédures rapides et spéciales. Et si tu veux, demain, à l'issue d'un procès qui dure à peu près 30 minutes, on lui annonce que les 10 prochaines années, à partir de maintenant, il va les passer en prison pour tentative de meurtre et qu'il sortira dans 10 ans. Et que par exemple, s'il est de nationalité étrangère, à l'issue de ses 10 ans, il sera directement expulsé dans son pays. J'ai vu que par exemple, alors je ne sais pas si c'est sur cette affaire-là ou sur l'un des autres refus d'obtempérer, mais c'était un Syrien, par exemple. Et ben voilà, 10 ans de prison, et à la fin, tu retournes dans le sympathique pays du président Al-Shara, qui saura s'occuper de ton cas, parce que je pense que là-bas, les refus d'obtempérer en Syrie sont mieux traités par le président.
On n'est pas obligé de prendre des exemples totalement. Caricaturaux.
Le gars, il prendrait 10 ans pour tentative de meurtre.
Oui, mais déjà, il faudrait qu'il soit jugé aux assises. Déjà, les policiers déplorent, c'est que on ne juge ça qu'en correctionnel. Or, quelqu'un qui refuse un contrôle et qui fonce délibérément sur une voiture de police, il fait une tentative d'homicide. Donc, il doit juger en tant que tel. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas assez de place peut-être aux assises et qu'il faut aller vite, mais est-ce que la justice n'est pas en dessous de tout là, dans ces histoires?
Déjà, rappelez-vous que depuis juillet 2025, déjà, à partir du moment où il y a une tentative, on va dire, de mettre en danger une personne dépositaire de l'ordre public, de l'autorité publique, c'est considéré maintenant comme un homicide routier. Vous savez, ça a
oui,
changé.
Oui, la loi a changé.
Mais bon, la justice, à chaque fois, elle ne peut pas non plus tout supporter sur son petit dos, d'accord ? Jean-Loup, tu disais tout à l'heure qu'il faudrait la manière forte, tuer pour la manière forte. Mais quoi ? Pour le permis de tuer ? Parce que donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un automobiliste qui va refuser d'obtempérer à l'ordre de l'autorité publique, donc toi, tu veux quoi ? Alors, veux que derrière, il ait la possibilité de pouvoir tirer, donc tu voudrais délivrer un permis de tirer aux policiers, si je comprends bien.
Je vais répondre.
C'est vraiment très très encadré. Il faut qu'il y ait un danger immédiat, il faut qu'il y ait une proportionnalité.
Quand sur 3 refus d'obtempérer, il y a 9 blessés, policiers, il y avait un danger immédiat quand même. Voilà, policier n'a sorti son arme.
Alors, non, mais c'est marrant parce que.
Je crois qu'au bout d'un moment, ils ont compris.
Ça se solde par
énormément de blessés, donc des blessures graves, et en plus par des meurtres.
Mais je suis désolé. Pourquoi heureusement? C'est marrant, ça. Tu inverses ces choses. Non.
C'est un peu le rôle de l'avocat.
Non, c'est pas le rôle de la police d'être blessé. La police n'a pas à être blessée. C'est, à la limite, on apprendrait que les 3 conducteurs ont été blessés. Ça choquerait personne. Ce qui choque, c'est que c'est les 9 policiers qui sont blessés. C'est que dans ce genre d'histoire, il est pas normal que le policier soit blessé.
C'est le
chauffeur qui prend un risque.
Remettons
pour sa
les
vie.
Choses dans
c'est
leur contexte. Le ils sont blessés comment? C'est-à-dire que est-ce qu'ils se sont mis devant le véhicule qui
c'est
était lui
faute.
En fuite?
Bah, ça va être leur faute.
Non, mais à un moment donné,
pour les policiers blessés.
C'est formidable.
Alors, et puis il y a autre
chose.
C'est
à cause des policiers.
Il y a autre chose qui est vraiment très exaspérant. Et je dis pas ça parce que je défends des personnes qui refusent de tempérer, mais quand même, c'est est-ce que les policiers sont obligés de réaliser cette course poursuite? Parce que l'interpellation peut être être aussi différé. Voyez, bah, maintenant, tiens, avec toutes les vidéosurveillance, on peut retrouver la plaque d'immatriculation.
D'accord.
On peut retrouver les individus qui étaient à l'intérieur.
On va la poursuite maintenant.
Mais, je veux dire, pourquoi prendre délibérément
des risques ? Si c'est un terroriste, bah, tant pis. Si c'est un gros trafiquant, bah, tant pis, on le laisse partir.
Mais alors, dans ces cas-là, donc, tu préfères que les usagers prennent soient malheureusement face à des risques que les policiers leur font prendre parce qu'il y a une course-poursuite de 15 minutes
en général,
sur 90 km ?
En général, les policiers, parfois, ils arrêtent la course-poursuite quand ils s'aperçoivent que ça va être trop dangereux. Je te rappelle que trois jeunes qui ont fini dans une piscine.
Ils se prennent souvent pour des cow-boys, hein, pardonnez-moi, mais.
Non, mais de toute façon,
c'est leur faute, ça passe de la police.
C'est des polices. D'accord. Il y a 28 000 policiers blessés par an, mais c'est de leur faute.
Ils sont très contents de se constituer partie civile et de réclamer des dommages et intérêts.
Ils ont bien raison.
Moi, je pense qu'il faudrait sanctionner les policiers blessés.
Non, on a quand même eu trois mineurs, tu sais, qui ont fini dans une piscine qui est en
fond. Oui, bien sûr, mais oui.
Bon,
eh ben 15 minutes, elle a duré ces courses.
Non, mais justement.
15 minutes, c'était pas sur une autoroute.
Eh ben, c'est pas ce qui s'est passé.
Ah, si,
ils ont arrêté la course poursuite.
Au bout de 15 minutes.
Oui, et les mômes ont continué à foncer comme des dingues. Ils ont fini dans la piscine. Donc, c'est pas la course poursuite qui a provoqué ça.
Bah, si, parce que du coup, ils étaient dans la peur.
Ils étaient défoncés au protoxyde d'azote.
Il y avait un peu de ça. Ils étaient plus très conscients.
Je comprends que tu défends les chauffards. Mais à un moment donné, on peut pas non plus se dire c'est normal que les policiers soient blessés et que faut surtout pas de course poursuite parce que je comprends, ça peut être dangereux.
Non, mais
ce qui est dangereux, c'est des chauffards.
Une adaptation aux circonstances.
Non, mais c'est marrant parce que, en plus, on m'a prêté des propos que je n'ai pas tenus. J'avais décidé aujourd'hui d'être modéré, justement, j'ai dit qu'on n'allait pas entrer dans des scénarios, la Clint Eastwood et l'inspecteur Harry.
Donc, je t'ai repoussé dans tes retranchements.
Je n'ai jamais parlé du fait, on pourrait en reparler, mais là, aujourd'hui, il se trouve que je n'ai jamais parlé du fait de tirer sur les véhicules et que donc je n'ai pas donné un quitus, un permis de tuer à la police, qui juste dit, et là, je pense que tu seras d'accord, qu'il faudrait des peines extrêmement fermes et je ne vois pas pourquoi un chauffeur syrien qui tente de tuer des policiers et qui met la vie de tout le monde en danger, la sienne, celle des policiers et celle des piétons, y compris d'enfants, pourquoi on n'enverrait pas ce monsieur 10 ans en prison afin d'envoyer un petit message dissuasif ? Excuse-moi, je n'ai pas l'impression que la présence de ce monsieur dans nos rues et sur nos routes soit une valeur ajoutée à la société française de grande qualité. Enfin, excusez-moi, c'est le sentiment que j'ai.
On salue Didier Giraud qui vient d'arriver. Bonjour Didier.
Sa contribution à notre société n'est pas majeure.
Bonjour Didier.
Salut Alain, bonjour à la France profonde.
Bienvenue dans cette discussion.
C'est surtout que je me demandais, heureusement qu'il y avait mon vieux Jean-Loup là, parce que je me demandais où on était, parce que s'il faut que les policiers s'excusent de rouler dans le bon sens quand on leur fonce dessus, tu vois, à un moment donné, ça va être compliqué.
Mais c'est de leur faute.
Je pense
Didier,
quand même
enchanté
que.
De te rencontrer.
Oui, moi aussi, c'est la première fois qu'on fait l'émission ensemble, mais ça part sur des bases qui sont pas terribles.
Non, au contraire, je trouve ça très sain. T'inquiète pas.
Je crois que le vrai problème, c'est le fait que plus personne n'a peur de la police, quoi. Moi, quand j'étais gamin, la simple vue du gendarme ou du policier faisait que, enfin, tu vois, déjà, on se disait qu'on avait forcément quelque chose à se reprocher rien qu'en les voyant. Et quand il y en avait un, enfin, au début que j'ai eu le permis, je me rappelle, à mes 18 ans, quand il y en avait un qui te demandait de t'arrêter, même pas l'idée de te sauver te venait à l'esprit. Alors que je peux le confesser, on a fait des trucs sûrement pas très bien sur la route, entre 18 et 25 ans, comme tous les gens. Enfin, comme tous les jeunes, on va dire. Je pense que ça a changé dans la société. Le rapport à l'alcool a changé. Mais par contre, la peur du policier, c'est devenu un truc qui n'existe plus. Et quand un policier demande de s'arrêter, il y a eu une période où les gens se sauvaient. Mais aujourd'hui, on est dans la période où ils leur foncent dessus, quoi. C'est quand même... Enfin, on est dans un grade supplémentaire que le délit de fuite. Moi, je crois que cette affaire-là, c'est un grade supplémentaire par rapport au délit de fuite. Quand à un moment donné tu fais demi-tour sur une quatre voies et que tu décides même pas d'essayer d'éviter la voiture de gendarmerie, mais de lui foncer dedans, eh ben tu te rends coupable de quelque chose qui doit s'apparenter à un crime, voilà. Ou au moins une tentative.
On a Rodolphe qui veut intervenir. Rodolphe,
au moins une tentative.
Qui est du côté de la Bretagne et qui est un ancien policier. Bonjour Rodolphe.
Bonjour et grande gueule, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé aux anciens collègues? Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut davantage sévir, passer à la présomption de légitime défense? 12 000 policiers et gendarmes blessés en mission, faut le rappeler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont en première ligne, quoi. Dites-moi.
Déjà, enfin, première chose, bon, je suis particulièrement choqué des propos de maître qui est sur place, sur votre plateau, qui vous dit que...
Désolé, Rodolphe.
Non, mais attendez, madame, avant d'être désolé, écoutez mes propos. quand on dit que vous... Non, mais ça vous fait rire, mais ça va pas vous faire rire longtemps, je pense que vous allez redescendre du monde des bisounours. quand on dit que les policiers sont contents...
Vous êtes en forme ce matin, monsieur Rodolphe.
Ouais, bah comme vous, donc on va essayer d'être à la hauteur. Quand vous dites que les policiers sont satisfaits de se constituer partie civile, là, c'est une honte. Il n'y a aucune victime qui est satisfaite de se constituer partie civile, maître.
Donc, si monsieur, je vous assure que sincèrement, quand ils se constituent partie civile pour des outrages et qu'ils mobilisent les audiences correctionnelles et que derrière, ils ont des indemnités.
On parlait des blessés.
Allez-y.
Maître, laissez-moi terminer, vous aurez tout le temps, vous avez 3 heures pour vous exprimer, donc vous inquiétez pas.
Pardonnez-moi, Rodolphe.
Il n'y a aucun policier qui est satisfait, madame. Moi, toutes les années que j'ai fait, je me suis retrouvé plusieurs fois au tribunal, j'ai jamais été satisfait de me constituer partie civile et d'engorger les tribunaux, d'accord? Première chose. Deuxième chose, si la justice était un petit peu moins laxiste sur les peines, parce que le problème, c'est ça aussi. C'est que, regardez ce qu'ils encourent. Entre la peine encourue et la peine prononcée, c'est même pas un dixième de la peine. Il n'y a aucun policier, madame, qui fait son boulot le matin, qui rêve d'être blessé sur un refus d'obtempérer. Donc, si les avocats faisaient un petit peu plus de terrain que les policiers, vous avez le droit de demander à patrouiller. Vous pouvez le faire. Vous allez voir un peu les.
Et j'ai même fait, figurez-vous, pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'étais avec différentes patrouilles de la BAC, ce genre de choses.
Ça vous a pas servi de leçon apparemment, ou en tout cas
est-ce que c'est pas patrouille au bon endroit. En fait, Rodolphe, ce que vous dites, c'est que c'est le sentiment d'impunité pousse à ces conducteurs à ne pas respecter simplement le contrôle policier parce qu'on leur demande simplement de s'arrêter. Ils se disent, je peux y aller parce que je risque rien.
Allez-y, Rodolphe.
Mais quand j'étais policier, on en a fait plein de refus d'obtempérer sur le peu, quelques-uns qu'on arrive à attraper, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de faire des poursuites après les véhicules. On demandait de stopper la poursuite systématiquement. Aujourd'hui, la doctrine a un peu plus changé, donc forcément il y a un petit peu plus aussi, il faut relater les chiffres, pourquoi aujourd'hui ils sont en hausse, c'est parce que aussi aujourd'hui il y a plus de poursuites qui sont menées, on laisse moins faire.
Mais ça se solde davantage par des blessures blessures graves et voire même des morts.
Attendez. Mais donc, on fait quoi, alors, madame?
Attendez.
Il a joué sa vie. Hein.
Allez-y.
Mais donc, dans l'affaire Naël ou dans d'autres affaires, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend le risque d'avoir des individus sans permis, sous protoxyde d'azote, sous tout l'alcool et tous les produits stupéfiants qui existent, de heurter une poussette, une personne âgée, n'importe quel citoyen.
Personne va pleurer sur le chauffard qui a pris un risque, hein, je suis désolé.
En revanche, on pourra pleurer sur la
fillette qui sera renversée par un chauffard.
Voilà, sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait alors? On les laisse faire, donc c'est open bar, alors on laisse tout faire en France. Je vais vous laisser terminer. Donc aujourd'hui, il faut que la justice prenne en compte que ces gens-là, ce sont des tentatives d'homicide. Ce ne sont pas, à chaque fois, les faits sont requalifiés en violence volontaire avec arme par destination et nanana. Ça suffit avec ça. Il faut qu'ils passent en cour d'assises, ces gens-là. Il faut qu'ils aient des interdictions de permis pendant au moins 10 ans avec des lourdes amendes.
Et des peines de prison.
Ça suffit. Oui, mais les peines de prison, ils passent en prison 3 mois, 6 mois, et puis ils sont dehors et ils recommencent. Regardez l'affaire. Juste pour donner un exemple particulier. Regardez l'affaire du périphérique, la BAC 75N.
Ouais,
il y a eu 2 morts sur le périph pour un refus d'obtempérer. Cet individu-là, je l'ai eu plusieurs fois en garde à vue devant moi. 9 fois, il a été condamné pour défaut de permis de conduire. 9 fois pour des refus d'obtempérer. Ouais.
Le retirer le permis, ça change rien.
Ça serait symbolique.
Mais là, vous avez raison, Rodolphe. D'autant que l'affaire de Beson dans le Val d'Oise, le dossier, il m'a l'air assez clair quand même. On voit la policière qui veut contrôler, le type descend la vitre, ensuite remonte la vitre, il la coince et il démarre. Comme disait Jean-Loup, il n'y a pas de raison qu'on attende 6 mois ou 1 an pour
juger. Oui, mais souviens-toi, si la policière à ce moment-là sort son arme
et
tue, eh bien on est dans l'affaire Naël. Parce que tout d'un coup, on aura effectivement certains qui vont dire c'est terrible, etc. Parce que Naël, au départ, c'est un refus d'obtempérer.
Et bien sûr que c'est une bavure policière.
Maître
Pégan.
Attendez. On va remettre les choses dans leur contexte. À partir du moment où il y a un refus d'obtempérer, sous prétexte que vous êtes policier et que la personne ne s'est pas exécutée, donc vous devez sortir votre arme parce que vous êtes policier.
Il avait le bras coincé.
Dans ces cas-là, si c'est proportionné, si véritablement elle a été exposée à un risque immédiat.
Elle a été traînée sur 100 mètres.
Légèrement un risque quand même.
Elle ne pouvait pas non plus en même temps tirer. Mais c'est pour dire que là, dans ces cas-là, ces collègues n'ont pas pris leur arme parce qu'ils ne voulaient pas non plus
mettre la vie de leurs collègues en danger. Merci à Rodolphe d'avoir été avec nous. Il est 9h20.
C'est pour ça qu'il y a des policiers, on va conduire le débat, mais c'est pour ça qu'il y a des policiers qui demandent la présomption de légitime défense.
On va continuer la discussion avec Maître Sandrine Pégan, avec Jean-Loup Bonamy, avec Didier Giraud. On aura la syndicaliste policière aussi, Linda Kebab, avec nous. Elle voudrait qu'on modifie la loi. Restez avec les grandes gueules, on parle des refus d'obtempérer. Il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
discuter avec vous, bien évidemment, au 32-16 des refus d'obtempérer. Parce que c'est vrai que là, ils sont malheureusement légion. Les policiers sont de plus en plus menacés pour des faits divers et variés. Ça peut être le contrôle d'un VTC, voir si sa situation est régulière. Ça peut être effectivement face à des bandits, du trafic de stupéfiants, parfois des défauts d'assurance. On roule sous l'emprise de l'alcool, c'est ce que nous expliquait un avocat ou de stupéfiants spécialisé dans les délits routiers. Aujourd'hui, malheureusement, les faits sont multiples. Mais ils ont un point commun, c'est qu'à chaque fois, les policiers se retrouvent en danger. Tu voulais dire quelque chose, Jean?
Non.
Ah, pardon, parce que je te voyais lever la main. La question est de savoir aujourd'hui, c'est si tout doit être requalifié de manière légale en homicide, s'il faut changer la loi de façon à ce que les policiers soient davantage protégés. En fait, c'est ça la question, parce qu'eux disent, c'est notre vie qui est mise en danger. Et pourquoi est-ce qu'elle est mise en danger? Parce que tous ceux qui procèdent à ces refus d'obtempérer, bien, ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose finalement, quoi, si tu veux.
Alors que la loi existe.
Ouais.
En fait, ils veulent pas changer la loi pour être plus sévère avec les refus d'obtempérer, parce que la loi existe, il suffit d'appliquer. Ouais. En revanche, ils veulent que le policier ne soit pas à chaque fois sur le banc des accusés dès que il décide de sortir son arme parce qu'il se sent en danger par un refus d'obtempérer. Par exemple, dans le cas de véhicule du police qui du côté de Nantes, a foncé délibérément l'automobiliste qui a foncé délibérément sur un véhicule de police. Ben, les policiers ont été blessés. Si les policiers avaient sorti leur arme, on aurait eu Maître Pégan et des associations qui auraient été là à dire mais il n'y avait pas besoin, vous comprenez, etc. C'est ça qui est compliqué pour les policiers. C'est-à-dire que quand ils sortent leur arme, ils sont sur le banc des accusés. Quand ils ne sortent pas leur arme, il y a un sentiment d'impunité qui se développe et on a 28 000 refus d'obtempérer sur une année.
Il faut que ça rentre dans les critères. Et sincèrement, tous les quatre, là, je vous invite à venir avec moi au tribunal. D'ailleurs, j'y vais juste après. J'ai une audience à 13h30 pour des délits routiers, justement. C'est pas fait exprès. Mais c'est pour vous dire que la justice n'est pas laxiste. Il y a beaucoup plus de mandats de dépôt, et notamment par rapport aux délits routiers, qui sont prononcés alors même qu'ils ne sont pas requis. C'est pour vous dire, donc, arrêtez de penser qu'à un moment donné, les chauffards ne sont pas punis sévèrement. Ils le sont.
C'est quoi les punitions?
Alors bon, après, donc tout dépend. Ça commence à 2 ans d'emprisonnement et
avec sursis.
Ça dépend si t'es primo délinquant ou non.
Non, mais tu avec sursis, c'est pas de la prison.
Alors écoute, j'espère que ça ne t'arrivera jamais. Mais si
moi, quand je suis contrôlé par les policiers, je m'arrête. C'est marrant, c'est un truc de dingue.
Alors, est-ce que déjà
t'es vraiment avec bizarre.
T'es vraiment un boomer, toi. Hein.
C'est dingue. Je fais un truc dingue, c'est qu'il y a un policier qui lève son bras ou un gendarme, ben je m'arrête.
Mais tu devrais être puni pour ça. Tu devrais aller en prison.
Peut-être que les policiers ou les gendarmes qui ont arrêté des personnes qui ne se sont pas, qui n'ont pas obtempéré à leur action, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas leur insigne aussi. Extérieur de comme quoi
ah, policier. Il savait pas que c'était un policier.
Mais peut-être, ça arrive de temps en temps.
Ils sont
en civil.
À Beson, ils étaient en uniforme.
Oui.
Donc peut-être que c'est un problème d'ophtalmo.
Certainement.
Pour la personne qui était au volant.
Je tout foutre au deuxième degré, mais moi je crois que c'est plus grave que ça, quoi. Enfin, tu vois, je j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent, les policiers, parce que je vais le redire. Je pense quand même que depuis quelques années, mais peu. Peut-être l'affaire Naël, d'ailleurs. Il y a une volonté délibérée de foncer, pas de se sauver, mais de foncer sur les flics.
De se faire du flic.
Quand tu regardes,
qui pense que le flic
quand
ne va
tu
pas
regardes
son arme,
ce qui s'est passé isolée, autour de Nantes, là, où est positionnée la voiture de gendarme et la largeur de la rocade, le mec qui a contresens, je suis désolé, il peut passer
mais
à côté.
Il faut qu'il y ait une intention de la part des chauffards. C'est pas parce qu'à un moment donné, ils essayent aussi de se soustraire à la justice ou en tout cas à la police qu'ils ont envie derrière de se faire du policier.
Regarde les images autour de Nantes.
De
tu verras qu'il peut passer à côté de la voiture.
Alors
de
nous sommes avec
pas contre les policiers.
Il plafonne la voiture, quoi. Il va aller le chercher.
C'est parce que justement, ils savent que le policier ne va pas sortir leur arme qui se permet de se comporter ainsi. C'est là où tu te trompes. C'est parce que justement, le chauffard dit de toute manière, le flic sortira pas son arme. Je peux y aller.
Raison pour laquelle la semaine dernière, ça a été retoqué à l'Assemblée nationale parce que justement, ils demandent les policiers à ce qu'il y ait maintenant une présomption de légitimité de l'usage des armes. Des armes à feu. Bah et pour nous, après, juridiquement, ça pose un problème puisque ça renverse la charge de la preuve. Donc ça, après, je rentre dans la cuisine juridique, mais c'est un peu compliqué.
Nous sommes avec Linda Kebab, qui est secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour, Linda Kebab. Bonjour. Linda Kebab, est-ce qu'elle est avec nous? Bonjour, Linda Kebab. Bon, on va la retrouver dans un instant, le temps de rétablir la... Ah voilà, elle est là. Je croyais qu'on avait un problème de ligne. Linda Kebab, qu'est-ce que vous attendez du côté des syndicats de police face à ces refus d'obtempérer qui se multiplient?
Écoutez, quand j'entends ce que j'entends, je comprends que mon téléphone n'est pas fonctionné. Lui-même, il était atterré. Alors, quand déjà juste la première chose, c'est que les policiers, en l'occurrence, c'est notre syndicat qui le demande au ministre, c'est la présomption notamment de l'usage légitime de l'arme. Et qu'on vient nous dire que c'est l'inversion de la charge de la preuve, alors bah, dans ces cas-là, c'est le code pénal et le code de sécurité intérieure seraient mal écrits aujourd'hui. Puisque l'article 122.4 du code pénal et l'article L435-1 du code de sécurité intérieure donnent de facto l'autorisation aux policiers d'utiliser leur arme. C'est ce qui fait que quand vous voyez un policier dans la rue avec une arme à la ceinture, vous n'avez pas peur, puisque vous savez qu'il a la délégation de l'usage de la force et qu'a priori, il pourrait l'utiliser dans des conditions prévues par la loi. Et
que c'est donc avec des critères criminel. Très cumulatifs.
Je termine ma démonstration, après je peux entendre qu'on soit mal à l'aise avec ce que je dis. Et donc du coup, de fait, ces deux articles précisent. Quand on vient parler de présomption d'usage légitime, c'est juste pour éviter d'avoir des policiers qui utilisent leur arme et que lorsque, et moi je vous parle de la réalité du terrain, pas de rhétorique ou de personnes qui font abstraction du fait que la plupart des peines sont prononcées avec sursis et que nous, on a des délinquants qui nous regardent et qui nous toisent et qui nous dit « mettons sursis, j'en ai rien à faire » pour dire les choses très trivialement et vulgairement et je vous passe les insultes. Mais nous, le sujet, c'est juste d'arrêter d'avoir des policiers dans le bureau du magistrat avec un magistrat qui lui dit « mais monsieur le policier, vous êtes une personne qui a utilisé son arme, vous vous rendez compte, c'est grave de tirer avec son arme. » Mais bien sûr que je tire avec mon arme, mais c'était pas pour braquer une banque. C'était pas pour commettre un homicide volontaire ou un assassinat, c'était parce que j'ai une délégation de l'usage de la force et que je l'ai fait dans le cadre de ma mission au nom de la nation française. Et donc juste ça, en fait, avoir un paradigme qui diffère et une nouvelle philosophie dans notre pays, où quand un policier sort son arme, et ben d'un coup d'un seul, il ne passe pas du camp des gentils au camp des méchants au motif qu'il l'ait tiré avec. Alors quand j'entends la version de la charge de la preuve, j'entends que madame a une difficulté avec les notions juridiques, puisque le code pénal le prévoit déjà.
Elle est avocate, hein.
Mais j'entends bien. Sauf que nous, on a des avocats qui sont tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire, puisqu'ils disent eux-mêmes qu'ils ont un problème avec le fait que dès que le policier a sorti son arme de son étui et qu'il en a fait usage, d'un coup d'un seul, à cet instant, se bascule quelque chose dans la philosophie et la politique pénale française qui veut que le policier devient un simple criminel mis en examen et que c'est tout à fait normal de le placer en garde à vue, de le mettre en détention provisoire, alors même que rien n'a été prouvé dans le fait qu'il ait pu l'utiliser ou non de manière régulière ou pas. Nous, c'est juste ça, de dire bah, tant que vous ne pouvez pas prouver que le policier il n'a pas tiré dans les conditions prévues par la loi, il n'y a pas de raison de le foutre en prison. Enfin, je veux dire, c'est pas...
Mais vous avez entendu vous avez entendu les propos, Linda, de Laurent Nunez ce matin chez nos concurrents. Le ministre de l'Intérieur, il dit 11% plus 11%, ce n'est pas un échec, c'est simplement le constat que les gens respectent moins l'autorité.
Mais absolument. Vous savez, vous avez une explosion des refus d'obtempérer. Mais comme je ne cesse de le dire, c'est pas sur des refus d'obtempérer qu'on tire, puisqu'il y a 28 000 refus d'obtempérer en France tous les ans. Or, l'usage de l'arme, elle aussi, a environ, grosso modo, je grossis, à 150 tirs par an. Donc, j'ai envie de vous dire que le ratio, il démontre bien que c'est pas les refus d'obtempérer qui font que les collègues tirent. Non, ce sont les violences volontaires avec armes. En l'occurrence, l'arme, c'est la voiture. Et les tentatives d'homicide. Alors, venez nous dire que maintenant, on n'a plus le droit de tirer parce que de plus en plus, et en l'occurrence, on a une explosion des personnes qui utilisent la voiture comme une arme et qui foncent dans les policiers ou dans les usagers, parce que c'est pas seulement pour se protéger que les policiers tirent, c'est aussi pour protéger les usagers. On est passé de 3000 violences volontaires ou tentatives d'homicide avec la voiture lors de refus d'obtempérer il y a environ moins de 10 ans à aujourd'hui plus de 8000.
Mais est-ce qu'un conducteur,
là, ça veut dire que ça veut dire qu'il se passe quelque chose autour de ça, madame Kebab, là.
Il se passe quelque chose qui dépasse la police.
La voiture, ça devient une arme, quoi.
Bien sûr, et c'est...
Mais est-ce que c'est jugé en tant que tel? C'est-à-dire que, par exemple, ce qui s'est passé là sur le périph nantais, où c'est le véhicule qui fonce délibérément sur le véhicule de police, est-ce que le conducteur sera jugé pour tentative d'homicide ou est-ce qu'il sera simplement jugé pour refus d'obtempérer?
On lance les paris que ça va être requalifié, qu'aujourd'hui on parle tous de tentative d'homicide volontaire, que ce soit sur Nantes, que ce soit à Beson, où je rappelle que la policière a été agrippée par l'auteur avant qu'il n'ait essayé de la tuer en empruntant la route à contresens et de la projeter contre d'autres voitures. On parle aussi de ce camion plateau qui a foncé dans une voiture de policier en Seine-et-Marne la même nuit. Je vous donne en mille, hein, je veux dire, je parie mes deux bras, que ça va être requalifié en violence volontaire et que ça sera correctionnalisé. Pourquoi? Parce que les cours d'assises sont engluées.
Et voilà, vous avez tout compris. Oui, c'est exactement
oui,
pour ça.
Alors, donc du coup,
vous voulez quoi? Madame Kebab,
dire qu'il est normal de requalifier des infractions. Vous savez quoi? C'est justement cette politique française. Je parle pas seulement des refus de tempérer. Et franchement, c'est gravissime et que les auditeurs le comprennent. C'est cette politique qui fait qu'en France, on a des viols qui sont requalifiés en agression sexuelle parce qu'on
pour qu'ils soient jugés plus rapidement et plus sévèrement. parce qu'il y a un risque d'acquittement
après aux assises. Non, il y a pas de rapidité, il y a une question d'une justice qui soit, comme l'étymologie le dit, juste. Et donc, c'est pas normal de correctionnaliser quand on a des crimes. Parce que nous, les victimes, on les a en face de nous. Et que notre travail, c'est pas de faire des plaidoiries qui épatent la salle. Non, c'est de permettre à des victimes d'avoir finalement le prononcé des sanctions qui soient à la hauteur des faits qui ont été commis. Et quand vous êtes un policier,
Faut-il que tous les éléments soient présents dans le dossier.
Non mais madame, on préfère attendre 3 ans et que la personne soit condamnée pour un crime que d'avoir une correctionnalisation au bout de 6 mois et que finalement les gars s'en ressortent avec 2 mois de prison, pardon, avec sursis et qu'ils nous toisent de haut.
Merci Linda Kebab, merci d'avoir été avec nous. Merci Linda Kebab, Sandrine Pégan.
Après, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, on peut pas dire bon, alors il ne sera pas jugé sous la forme d'un crime, mais plutôt d'un délit, parce que il est pas jugé assez rapidement. Mais à partir du moment où vous êtes renvoyé devant une juridiction, mieux vaut quand même que vous soyez jugé rapidement pour qu'il y ait une vertu pédagogique de la peine, pour que l'individu qui soit traduit en justice comprenne les raisons pour lesquelles il est condamné, et non pas attendre 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que les audiencements des cours d'assises, je vous assure que c'est véritablement long.
Mais correctionnalisé, on sait que le type prendra moins.
Il prendra moins, mais il prendra. Alors qu'il y a un risque d'acquittement avec une cour d'assises, avec un jury populaire.
Écoute Sandrine, toi qui es dans les tribunaux tout le temps, pourquoi l'engorgement, je vais dire, des cours d'assises, on n'y peut rien. À un moment donné, pourquoi on monte pas des bâtiments qui s'appellent des cours d'assises et on met des juges dedans, conformés, on met des juges dedans. À un moment donné, il y a 3 millions de chômeurs dans ce pays, on n'a qu'à former des juges, quoi.
Oui, ça dure longtemps pour pouvoir former un magistrat.
Une juridiction spéciale, ça serait jugé dans l'après-midi, tu prendrais des juges retraités, en 2 heures, ça serait jugé,
Jean-Loup, il faut qu'il y ait une enquête, il faut bien que ce soit contradictoire, il faut qu'il y ait les droits de la défense et il faut qu'il y ait les droits de la personne.
Vu les images qu'on vient de voir, il n'y a pas besoin d'y passer trop longtemps.
Parfois, tu as l'impression que c'est d'une évidence, alors que pas du tout.
Vu les images qu'on vient de voir, je pense que 30 minutes est largement suffisant pour statuer sur le cas.
Merci à tous. Merci à Linda Kebab d'avoir été avec nous. Je sais qu'il y a Pascal, policier du côté du Puy-de-Dôme, policier national, blessé à 2 reprises, qui voulait réagir et reprendre à partie Sandrine Pégan. On a un record.
Je prends tout sur le dos, allez-y.
On a un record d'appel de policiers. Je sais pas, on pourra peut-être y revenir à un moment ou à un autre dans l'émission, vu tous les appels qu'il y a pour Sandrine Pégan de policiers. En attendant, il est 10h-20. On va regarder refus d'obtempérer. La peur peut-elle changer de camp? Vous dites oui à 60%. Restez avec les GG dans un instant. Là, on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story 32-16 pour agir avec les Grandes Gueules tout à l'heure à 10h pour évoquer le prix des transports en commun. Pourquoi ? Parce que on a cru pendant un moment que le gouvernement voulait augmenter les tarifs des transports publics, ou plutôt le demander aux collectivités locales. Finalement non, ça a été démenti. Mais est-ce qu'on paye le vrai prix des transports en commun aujourd'hui ? Est-ce qu'on en a pour notre argent ? Vous venez en parler tout à l'heure à 10h avec nous. En attendant, c'est long, on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas. Avec Anaïs Inès Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour à tous. Les explications d'abord de Jack Lang, pris dans la tourmente de l'affaire Epstein. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, ma chère Sandrine?
On dit Epstein ou Epstein?
Moi, j'en sais rien.
Epstein.
Epstein à l'américaine, Epstein à la française. Ou à l'européenne.
Bon, t'en fous ou pas?
Je m'en fous pas.
Ok, Jean-Loup.
Je m'en fous pas.
Didier.
Je m'en fous pas.
L'ancien ministre de la Culture se défend après la publication hier d'un article de Mediapart révélant une relation existante entre la famille de Jack Lang et le criminel sexuel américain. Il reconnaît Jack Lang et assume pleinement les liens créés avec Jeffrey Epstein à une époque où rien ne laissait supposer, je cite, qu'il pouvait être au cœur d'un réseau de criminalité. Sandrine, pourquoi tu ne t'en fous pas ?
Déjà parce qu'à n'importe quel moment, on peut aussi être ami avec des personnes dont on ne sait pas que derrière, ils ont un passé criminel. La preuve en est, je vais vous le dire, j'étais ami avec M. Morandini. Je partais en vacances avec lui. Et figurez-vous que voilà, à partir du moment où j'ai su
Oula, c'est grave,
le contenu des dossiers, ben forcément, j'ai plus cautionné ça. Et je ne savais pas déjà, mais donc après, je me suis retirée. Donc on peut être ami avec des gens alors qu'on ne sait absolument pas ce qu'il en est dans leur vie.
Jean-Loup.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais là, dans le cas de Jack Lang, il y a quand même un très léger problème. Oui, pas tout à fait. C'est que, bien sûr qu'on peut être ami. D'ailleurs, Jeffrey Epstein connaissait tout le monde, c'était une personnalité mondaine avec un énorme cercle relationnel, et on peut très bien l'avoir connu, avoir travaillé avec lui, avoir été ami, sans pour autant avoir participé au crime.
Et sans savoir.
Voilà, et sans le savoir. Et sans le savoir.
C'est ce qu'il dit.
Mais ce qui m'intéresse, tu sais que moi, je suis conseiller en communication à mes heures perdues, c'est la stratégie de défense de Jack Lang, parce qu'on est quand même passé de « je ne connais pas ce monsieur, je ne savais pas qui c'était, c'est la presse qui m'a révélé son existence et avant qu'on en parle dans la presse, je n'en avais jamais entendu parler. Ah oui, c'est vrai, j'ai échangé plusieurs centaines de mails avec lui.
Et sa fille faisait des affaires avec la Chine.
Ma fille faisait des affaires avec lui. Je le connais très bien.
Caroline Lang.
Il y a quand même un énorme problème dans la stratégie.
Elle avait une société offshore
de communication et défense. C'est-à-dire que s'il aurait dû dire dès le début, je le connaissais parce qu'en fait, tout le monde le connaît, il connaissait tout le monde.
Non, mais là, ça va plus loin que ça.
Et voilà, ça jette quand même.
Ils sont ensemble.
Non, mais ça va plus loin qu'une connaissance.
Voilà.
Sa fille faisait des affaires et la famille Lang était très liée à Epstein.
Exactement. Comme tu viens de le dire, il y a eu des affaires entre la famille Lang et des affaires financières, du business entre la famille Lang et Epstein. Il y a des échanges de mails nombreux, il y a des photos. Enfin, voilà, c'est quand même, bon. Donc, il y a un problème. Et après, ça jette quand même le doute. Ça jette quand même une suspicion. Voilà.
Mais quand tu dis pas la vérité au début, c'est toujours.
Quand tu prends les gens pour des cons, quoi.
Sur ce genre d'affaires, je trouve que c'est quand même complètement débile d'aller s'attarder sur les confessions de vieux monsieur de 80 ans sur des trucs qui se sont passés il y a 30 ans. En même temps, le fait qu'il ait changé de stratégie, ça amène le doute, comme tu l'as bien expliqué.
Il nous a menti.
Enfin, tu vois, il y a un moment donné, tu peux pas être dépositaire de ce que font tes amis, quoi. Quand même.
Ah ben je suis d'accord.
Je veux bien que vous émettiez des doutes.
Quand il a attends une chose. Oui. Quand ça continuait la liaison, il avait déjà été condamné une fois, Jeffrey Epstein, pour proxénétisme aggravé. D'accord. Donc quand continuaient les correspondances les liens business, il avait déjà été condamné.
Donc Jack Lang ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Deuxièmement,
oui, mais est-ce qu'il était présumé innocent ou pas, s'il avait fait appel?
Il avait déjà été condamné. Ce qui est amusant, c'est de voir aussi que ce qu'on comprend, c'est que Jack Lang aussi profitait de la richesse de Epstein,
et de son entourage,
le jet, les voyages, etc. Moi, j'adore cette gauche. Jack Lang a toujours symbolisé ce qu'on appelait la gauche caviar. Qui s'est enrichi finalement avec le pouvoir, qui veut bien aider les pauvres, mais quand même qui aime bien le faste.
C'est là qu'on lui fait, Olivier,
des fréquentations milliardaires. Non, mais c'est amusant.
Non, mais
pardon.
À un moment donné,
c'est comme des gens qui donnent des leçons matin, midi et soir, oui. Et qui finalement sont contents d'avoir un ami milliardaire.
Moi, j'ai un petit problème.
Au niveau de la morale.
C'est que mon sac à théorie du complot est vide parce qu'elles se sont toutes révélées vraies. C'est ça le problème, voilà.
Bon, désolé, attendons les preuves quand même, des liens entre les deux.
Ce tweet
les preuves, on les a, on a les mêmes.
Des preuves comme quoi il était vraiment au courant de ce qui se passait au niveau des sévices.
Ce tweet de Sarah Knafo qui invite Tom Cruise à venir s'installer à Paris si elle est élue maire. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Sandrine?
On s'en fout.
Didier.
Comme de l'an 40.
Oh. Jean-Loup.
Tu veux que je m'en foute pas?
S'il te plaît.
Ok, je m'en fous pas.
L'eurodéputé Reconquête réagissait à un article du quotidien britannique The Telegraph révélant que l'acteur américain aurait quitté Londres pour des raisons de sécurité. En gros, elle promet une ville plus sûre si elle remporte donc la mairie de Paris. Pourquoi tu ne t'en fous pas, mon cher Jean-Loup?
Eh ben, ça ne sera pas mission impossible que de te répondre. Eh ben, justement, je ne m'en fous pas parce que je trouve, et c'est pas du tout un commentaire politique sur la ligne, que la stratégie de communication de Sarah Knafo, d'ailleurs inspirée en partie de Monsieur Mamdani à New York, de même que la stratégie de Sofia Chikirou, de Rachida Dati, c'est que ce sont trois très bonnes communicantes, Dati, Chikirou, Knafo, et là Knafo, elle fait un coup, justement, en pointant du doigt la réalité de l'insécurité, en faisant parler d'elle. D'ailleurs, la preuve, on est en train de parler d'elle. Elle montre qu'elle va avoir une politique plus ferme. En même temps, elle attire une star connue du grand public. Je me souviens déjà, et c'est pas nouveau, que il y a à peu près 20 ans, le couple Sarkozy avait reçu Tom Cruise. Et donc, oui, je trouve que ça montre bien la bonne communication de Sarah Knafo et d'autres comme Madame Chikirou ou Dati.
Les GG, retour aux affaires.
Ce monde où tout est à vendre, quoi.
Retour aux affaires.
Que du buzz.
Pardon, Anaïs. Retour aux affaires françaises pour Emmanuel Macron qui part au chevet des agriculteurs aujourd'hui. Opération Calinothérapie pour calmer les esprits à 3 semaines de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. On s'en fout ou pas, Didier ?
Bah non, on s'en fout pas.
Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Sandrine ?
On s'en fout pas. Moi, un, Didier.
Un déplacement en Haute-Saône, près de Vesoul, aujourd'hui, pour écouter le monde agricole qui traverse de nombreuses crises depuis plusieurs semaines, la dermatose notamment, ou encore les accords du Mercosur. Didier Giraud ?
Bah, il fouette. Hein, il fouette il a grave, notre il a président. Il a la trouille de se faire secouer au salon. Enfin, c'est terrible. Et comme la Haute-Saône est une terre de contestation assez forte.
Ah bon?
Et il n'y a pas que des amis du président Macron là-bas. Donc, je peux vous dire que
tu crois que ça peut marcher?
Non, enfin non, je crois pas. Moi, je crois qu'il fera
une thérapie.
Je crois qu'il va se faire secouer à l'arrivée au salon s'il décide de venir faire l'inauguration en grande pompe là sur un marathon de je sais pas.
En général, il commence quand c'est fermé.
Non, mais oui. Voilà, il y a aussi dans le monde paysan une vague qui dit allez boycott. Voilà, il y aura pas d'animaux, boycott général et puis laissons-les se débrouiller. Ce que les politiques viennent faire au salon de l'agriculture, c'est quand même serrer des pognes et taper sur le cul des vaches. Donc à un moment donné, les images seront différentes. Et donc dans le monde paysan, il y a un vrai mouvement qui dit boycott généralisé. Mais je peux vous dire que l'Élysée particulièrement est très inquiète de comment ça va se passer.
Sandrine, moi je pense que il racole un peu comme il peut. Comme tu dis, Didier, il essaye de sauver un peu sa peau, mais il aurait dû le faire depuis déjà de nombreuses années, pas juste à l'ouverture de à quelques semaines de l'ouverture de.
Bah, il a dit non au Mercosur.
Ah mais c'est le seul en Europe, hein. Et là, la ligne a toujours été claire.
Oui, alors qu'au départ,
à part quand il est devant lui là, mais sinon la ligne a toujours été claire.
Au départ, il était pour. Donc,
sachant que tu peux dire non. Tout en sachant comme les autres disent oui.
Là, Didier, de toute façon, j'adore la naïveté parfois des agriculteurs comme Didier Giraud.
C'est un nom de façade, c'est un nom de forme.
Non mais tu peux dire ce que tu veux. Son groupe a toujours voté. Les macronistes ont voté correctement au Parlement européen. Sans les macronistes au Parlement européen, il n'y aurait pas le dossier devant la Cour de justice aujourd'hui. Moi, je vais pas défendre. Enfin, vous savez ce que je pense de lui. Je vais pas défendre Macron, mais sur le dossier Mercosur, moi, je pense qu'il
a mis du temps quand même à se faire une
philosophie. Parce qu'au début, c'était pas sa position, t'es d'accord, Didier?
Je pense qu'il a toujours assumé une position, après qu'il y ait des intérêts à la nation derrière qui soient plus importants dans l'autre sens.
Jean-Loup, t'as 30 secondes.
Pour une fois n'est pas coutume, je soutiens le président. Je pense qu'il faut qu'il y ait une solidarité nationale face au Mercosur. On doit tous faire bloc face au Mercosur. La seule chose qui m'inquiète, c'est pas propre à Emmanuel Macron, c'est propre à tous les politiques. C'est un peu la logique par séquence. Voilà, il y a une séquence agriculteur, et puis après, dans 3 semaines, on passe à autre chose.
Dans 3 semaines, c'est le salon.
Voilà. Et alors, dans 6 semaines, une fois que le salon est passé, on fait tout le contraire. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais autrement, on fait tous bloc face au Mercosur.
Et les grandes gueules seront au salon de l'agriculture. On sera sur le stand des Hauts-de-France. On vous en reparlera, on dira précisément quelle date nous serons là-bas. Dans un instant, suite des GG, est-ce qu'on doit augmenter les tarifs des transports en commun, des transports publics? C'est au 32-16 que ça se passe.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.